Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Alors, la radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur chat, et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Nous sommes mardi 10 septembre 2019, nous diffusons un direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org, et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme de l'émission du jour. Et nous allons pas mal parler des cookies, sous des formes différentes. Nous commencerons en effet par la chronique « In Code We Trust » de Noémie Berger, sur les nouvelles directrices, lignes directrices de la CNIL, justement sur les cookies informatiques. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur l'apprentissage de la programmation pour les enfants et notamment des codings goûtés où on partage différents gâteaux autour de la programmation. En fin d'émission, nous aurons la chronique « Jouons collectif » de Vincent Calam. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors nous allons vous proposer un petit quiz, je vous donnerai les réponses en fin d'émission et vous pouvez essayer de proposer des réponses sur les réseaux sociaux ou sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm. Première question. Lors de l'émission du 3 septembre 2019, nous avons parlé de la migration de la gendarmerie nationale vers les logiciels libres. Donc la question est, combien de postes informatiques sont désormais sous système libre GNU Linux ? Allez, à quelques milliers près. Hein. Et deuxième question, quelle est la suite bureautique libre utilisée au début de la migration de la gendarmerie et quelle est la suite bureautique libre utilisée aujourd'hui ? Alors tout de suite, place au premier sujet. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique « In Code We Trust », dans le code nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'Une. Bonjour Noémie.
Bonjour Fred.
J'espère que tu as passé un bel été.
Très bien.
Alors Noémie, tu souhaites nous parler aujourd'hui des nouvelles lignes directrices de la CNIL sur les cookies, la CNIL étant la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ben, nous t'écoutons.
Alors oui, cette première chronique de la saison sera dédiée aux cookies, alors pas ces petits biscuits, ces succulents biscuits américains, mais ces fichiers texte de petite taille qui sont stockés sur un terminal lors de la navigation sur un site internet. On les appelle également les témoins de connexion. Généralement, ces cookies, on va les retrouver pour la gestion des sessions pour les paniers d'achat en ligne, la personnalisation, le pistage. Techniquement, ces cookies vont permettre d'accéder à des informations qui sont stockées sur le terminal d'un utilisateur, ou d'accéder à ce terminal pour y inscrire des informations. Elles vont contenir, ils vont permettre d'accéder donc à des données qui sont soit des données techniques, soit des données à caractère personnel. Donc, quelle est la législation applicable à l'usage des cookies actuellement ? C'est l'article 82 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 qui a été modifiée, et dont je rappelle qu'elle a été modifiée récemment, depuis le 1er juin 2019. Qui dispose que tout abonné ou utilisateur d'un service de communication électronique doit être informé de manière claire et complète, premièrement de la finalité de toute action qui tend à accéder à des informations qui sont stockées dans son équipement terminal ou à y inscrire des informations dans cet équipement, et deuxième point, c'est des moyens dont il dispose pour s'y opposer. Donc premièrement la finalité, deuxièmement les moyens pour s'y opposer. L'article 82 précise également que ces accès ou ces inscriptions, donc le dépôt de ces cookies, ne peut avoir lieu qu'à condition que l'abonné ait exprimé après avoir reçu cette information son consentement, qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle. Il existe une exception au consentement de l'utilisateur, c'est lorsque le cookie a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique, ou si ce cookie est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. Ces règles, Elles sont la transposition directe de la directive 2002-58-CE du Parlement européen qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. C'est la directive qu'on appelle vie privée et communication électronique. En 2013, la CNIL avait pris une recommandation relative aux cookies, donc dans le cadre d'une délibération 2013-378 du 5 décembre 2013. Dans cette recommandation, la CNIL rappelle que compte tenu des risques qu'ils entraînent sur la vie privée, les cookies qui nécessitent une information et un consentement préalable de l'internaute sont notamment ceux qui sont liés à des opérations de publicité ciblée, des cookies de mesure d'audience, des cookies traceurs de réseaux sociaux qui sont générés par les boutons de partage de réseaux sociaux. À l'inverse, pour la CNIL, et en application de l'article 82, certains des cookies peuvent être déposés ou lus sans recueillir le consentement des personnes. Donc elle rappelle que ce sont ceux qui ont pour objectif de faciliter la communication par voie électronique ou qui sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service qui est expressément demandé par l'utilisateur. En pratique, la CNIL a recommandé en 2013 la mise en place d'un bandeau qu'on voit souvent sur les sites internet qui permet d'informer le visiteur des finalités précises des cookies qui sont utilisées, de la possibilité de s'opposer à ces cookies et de changer les paramètres en cliquant sur un lien qui est présent dans le bandeau. Et troisième chose, du fait que la poursuite de sa navigation vaut accord au dépôt de cookies sur son terminal. Et c'est ce troisième point qui aujourd'hui est largement discuté et même qui est remis en cause. Le dernier point de la recommandation de 2013, c'était sur la durée de conservation des informations qui étaient collectées via les cookies, puisque la CNIL avait indiqué que le délai de validité du consentement devait être de 13 mois maximum. Donc une fois qu'on acceptait le dépôt de cookies sur son terminal, ce consentement valait pour 13 mois et au-delà, il fallait redemander le consentement de l'utilisateur. Avec le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, il y a eu des modifications qui ont été apportées, notamment à la notion de consentement, prévue par l'article 4 et également par l'article 7 du RGPD. Et donc aujourd'hui, le consentement il est clairement défini comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernent fassent l'objet d'un traitement. Donc, le consentement, il est clair. Il doit être volontaire, libre, spécifique, éclairé et univoque. Et il doit se traduire par une déclaration ou par un acte positif clair. Donc, en pratique et à mettre en œuvre, cette nouvelle réglementation du RGPD, elle va avoir des conséquences sur la réglementation sur les cookies. Et c'est pour cela qu'en juillet 2019, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a publié des lignes directrices sur les cookies. Ces lignes directrices, elles sont venues abroger et remplacer la recommandation de 2013. D'ores et déjà, la CNIL annonce qu'il va y avoir une nouvelle recommandation dans les prochains mois qui précisera les modalités pratiques du recueil du consentement. Et normalement, elle est attendue pour le premier trimestre 2020. Les lignes directrices, elles permettent en fait de mettre à jour la définition du consentement avec les règles du RGPD. Donc son champ d'application, il est extrêmement large puisqu'il couvre tous les dispositifs qui permettent en fait l'utilisation des cookies. Donc on va avoir dans les lignes directrices, la CNIL rappelle que ça peut concerner une tablette, un smartphone, un ordinateur fixe ou mobile, une console de jeux vidéo, une télévision connectée, un véhicule connecté. Vraiment, on a une vision très large du support. Et puis, elle explique également que les règles s'appliquent quels que soient les systèmes d'exploitation, quels que soient les logiciels applicatifs ou les terminaux utilisés. Les lignes directrices, elles vont donc porter sur l'utilisation des différents types de cookies qu'on peut trouver. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que la CNIL rappelle dans ses lignes directrices que les cookies peuvent concerner des données à caractère personnel, mais que les règles s'appliquent également pour le cas où il n'y a pas de données à caractère personnel qui sont collectées, puisque l'article 82, qui provient de la directive vie privée, elle concerne des données autres que les données à caractère personnel. Donc on va avoir en fait un certain nombre de lignes directrices, de guidelines, qui permettent un peu de déterminer comment utiliser ces fameux cookies. Donc nous allons avoir la question du recueil du consentement, puisque la CNIL rappelle que le recueil du consentement, il doit être exprimé par une manifestation d'une certaine volonté. Comme je le rappelais tout à l'heure, cette volonté, elle doit être libre, spécifique, éclairée et univoque, par une déclaration ou un acte positif clair. Donc la CNIL reprend chacun de ces caractères et vient nous dire ce qui, selon elle, permet de répondre à ces différents critères.
Sur le consentement, eh bien, il faut véritablement que la personne ait la possibilité d'exercer son choix. Donc le fait de bloquer, par exemple, l'accès à un site internet ou à une application mobile pour une personne qui ne consentirait pas à être suivie, eh bien, n'est pas conforme au RGPD puisque la personne ne peut pas exercer son choix. Le caractère spécifique, c'est de permettre à la personne de donner son consentement pour chaque finalité distincte. On peut consentir de manière globale à plusieurs finalités, mais il faut pouvoir, quand même, à un moment, pouvoir retirer son consentement sur certaines des finalités. Sur le consentement éclairé, donc là, la CNIL rappelle que l'information qui est communiquée doit être rédigée en des termes simples et compréhensibles par tous. Donc ça, ça fait partie de ces règles. On ne doit pas donner un langage trop compliqué. Il faut que l'utilisateur puisse comprendre facilement à quoi va servir le dépôt des cookies ou l'accès à des informations sur son terminal. L'information doit être complète, visible, mise en évidence. Elle rappelle également qu'il faut pouvoir retirer le consentement à tout moment. Les paramètres du terminal. Donc c'est vrai que le navigateur, aujourd'hui, ne peut plus n'est pas en fait considéré les paramètres qu'on va pouvoir faire à travers son navigateur. Eh bien, la CNIL considère que ce n'est pas un niveau suffisant d'information. Donc en réalité, elle recommande encore une fois à l'éditeur de pouvoir permettre à l'utilisateur de paramétrer directement depuis le site et non pas depuis le navigateur. Sur les opérations de lecture, alors là-dessus, l'article 82 n'est pas modifié, donc effectivement, toujours la possibilité de ne pas recueillir le consentement lorsque le cookie a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou s'il est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne. Mais la CNIL rappelle néanmoins que dans ces conditions-là, les utilisateurs doivent être informés de l'existence de ces cookies et de leur finalité. Alors, on a entendu parler des lignes directrices cet été puisqu'elles ont été publiées le 4 juillet. Il y a également eu un petit peu d'actualité cet été puisque la Quadrature du Net a fait un recours devant le Conseil d'État. Alors, c'était un référé suspension. Donc, je voulais revenir un instant sur cette actualité puisqu'il pourrait y avoir des conséquences au regard de ces lignes directrices. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que lorsque la CNIL, le 28 juin, a publié sur son site internet un article où elle annonçait l'adoption de futures lignes directrices, elle a précisé qu'elle laisserait aux acteurs une période transitoire de 12 mois, durant laquelle la poursuite de la navigation comme expression du consentement sera considérée par la CNIL comme acceptable. Et donc, le 18 juillet, elle a publié un second article dans lequel elle a déclaré que ces lignes directrices seront suivies d'une nouvelle recommandation au premier trimestre 2020, et qu'une période d'adaptation s'achevant 6 mois après la publication de la future recommandation sera laissée aux acteurs. Donc, c'est tout l'objet du recours de la Quadrature du Net et de Calliopen, c'est qu'en réalité, pour ces deux associations, eh bien, la décision de la CNIL d'autoriser la poursuite de la navigation comme mode d'expression du consentement est contraire au RGPD, et donc ils ont demandé un référé suspension, qui a été rejeté alors pour une question d'urgence, c'est-à-dire que le Conseil d'État a considéré qu'il n'y avait pas d'urgence, l'urgence n'était pas caractérisée, en ce sens où une procédure au fond existe en parallèle et que l'audience de fond se tiendra le 30 septembre. Donc, c'est une affaire qui est à suivre, puisque, en principe, au mois de septembre, nous allons avoir, fin septembre, des informations sur la possibilité ou pas de reporter l'application de ces nouvelles règles, autant qu'il y ait un parti qui est laissé par la CNIL pour que les acteurs se mettent en conformité. Néanmoins, on rappelle quand même que l'usage des cookies est réglementé et que la CNIL a déjà condamné des éditeurs pour manquement à cette réglementation parce que les éditeurs n'avaient pas informé les utilisateurs du dépôt des cookies, ne les avaient pas non plus donné les moyens de s'y opposer. Et cette procédure a fait l'objet d'une confirmation par le Conseil d'État le 6 juin 2018, et une condamnation à hauteur de 25 000 euros. Donc c'est vrai qu'il faut quand même suivre cette réglementation qui est importante.
Merci Noémie. Donc on aura des nouvelles informations donc fin septembre en fonction de la décision qui sera prise. Et nul doute que tu reviendras sur le sujet dans une prochaine chronique. Mais écoute, je te souhaite une belle journée. Et puis donc au mois prochain.
Merci, à très bientôt.
Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Hans Trapp Returns par Gandhizia Raphaël Badawi. Et on se retrouve juste après.
Cause commune.
93.1.
D'écouter Handstrap Returns par Gandizia Raphaël Badawi. C'est une musique disponible sous licence Creative Commons Partage dans les mêmes conditions et vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons maintenant passer au sujet suivant. Alors, le sujet suivant est consacré à l'apprentissage de la programmation pour les enfants. Exceptionnellement, c'est un sujet qui n'est pas en direct, tout simplement parce que l'une des intervenantes reprenait l'école la semaine dernière et n'était pas disponible à 15h30. Donc, nous avons enregistré l'émission il y a 2 semaines. Et donc, nous allons diffuser cet enregistrement et on se retrouve juste après. Alors, nous allons aborder notre sujet principal qui va porter sur l'apprentissage de la programmation. Du code. Nous verrons les éventuelles différences pour les enfants, mais aussi on verra que la participation des grands est importante. Alors c'est une première émission sur ce thème avec des initiatives privées. Nous reviendrons bien entendu sur ce sujet avec d'autres initiatives, d'autres contextes et notamment à l'école. Alors nos invités du jour, Tony Bassett, cofondateur de Tech Kids Academy. Bonjour Tony.
Bonjour Fred.
Raphaël Pierquin, cofondateur des Coding Goûter. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Et Ludine Pierquin, Coding goûteuse. Bonjour Ludine.
Bonjour Frédéric.
Alors, avec ces trois invités, nous allons vous parler de l'apprentissage de la programmation pour les enfants, mais aussi pour les grands. Alors déjà, première question, même si je vous ai un peu présenté rapidement, est-ce que vous pouviez simplement faire un petit point sur votre parcours ou les points essentiels? On va commencer par Tony Bassett.
Oui, alors mon parcours, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en société de service et il y a quelques temps avec l'aide de mon associé Alexandra Bernard, nous avons fondé Tech Kids Academy pour apprendre aux enfants la programmation, entre autres.
D'accord, Raphaël Pierquin.
Alors moi j'étais en CM1 à un moment et j'ai eu un ordinateur à ce moment-là et j'ai programmé à partir de ce moment-là et j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Alors, entre-temps, j'ai eu une formation en ingénieur en informatique et aujourd'hui, je travaille dans une coopérative de développeurs. Et pour terminer, je m'intéresse notamment à des questions de pédagogie, surtout quand il s'agit de mes propres enfants.
Alors justement, Ludine Pierquin.
Voilà, enfant de Raphaël. Du coup, j'ai fait des coding goûter de mes 9 ans à mes 17 que j'ai aujourd'hui. Et j'ai aussi fait informatique et sciences du numérique au lycée.
Alors, on va en reparler justement oui. Dans le cadre de l'émission entre les différences peut-être ou les complémentarités entre les initiatives privées dont on va parler, donc Coding Goûter. Donc le site web, je le dis tout de suite, c'est codinggoûter.org et sans S à goûter. et l'initiative techkidsacademy.com, donc tout attaché, académie avec un Y, hein, pas I-E, mais les sites, les références seront évidemment sur le site de l'April. Alors déjà, première question, parce qu'avant d'aborder en détail vos initiatives sur la programmation, l'apprentissage de la programmation, c'est quoi la programmation et au fond, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, notamment pour les enfants? Quel est l'intérêt d'apprendre la programmation aux enfants? Alors, qui veut commencer?
Raphaël, sera moi,
Raphaël Pierquin.
Donc l'intérêt d'apprendre la programmation aux enfants, c'est probablement que on est entouré d'objets qui avec lesquels on interagit en permanence et qui sont programmés. Donc ils interagissent avec nous, que ce soit une voiture, un frigo, une console de jeu, évidemment un ordinateur, une télévision, un téléphone, et tout ça a été conçu, fabriqué par des humains qui ont pris des décisions sur le comportement que doivent avoir ces objets. Et du coup, ça a beaucoup d'impact sur la vie. Et du coup, ça a un intérêt de regarder ça de près, d'autant plus que la plupart des adultes ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, ils sont pas capables de transmettre en fait, des informations ou des concepts autour de ça. Donc, si ce n'est pas les adultes qui leur expliquent, il faut bien trouver un moyen qu'eux manipulent ces concepts. Ça, c'est une des raisons. Et puis, mais la raison, moi, qui m'a poussé à montrer ça à mes enfants, c'est parce que c'est très amusant. Enfin, moi, j'avais trouvé ça très amusant en tant qu'enfant de programmer. Alors, Ludine pourra dire ce qu'elle en pense de son côté. Et puis, c'est un moyen d'expression qui est formidable. On peut faire plein de choses en codant. Et c'est dommage de ne pas mettre ça entre les mains des enfants comme des adultes.
Alors, tu parles de Ludine. Justement, Ludine, quel intérêt tu vois, toi, à l'apprentissage de la programmation?
Alors, quand j'étais petite et que j'expliquais à mes amis ce que je faisais le dimanche matin, donc l'heure à laquelle on faisait les coding goûter, je disais que j'apprenais à donner des informations à mon ordinateur pour qu'il fasse ce que je veux qu'il fasse. Et donc, j'avais pas de recul à l'époque, mais maintenant je me dis que c'est cool d'avoir appris la programmation jeune parce que ça te permet de comprendre comment fonctionne, parce que ce qu'a dit mon père, Raphaël, comment fonctionnent les objets connectés autour de toi. Et puis même, quand j'étais petite, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait la télé. Et que c'était pas juste magique, t'appuies sur un bouton comme ça. Et non, ça donne des outils pour. Oui, alors c'est un peu niais, mais dire comprendre le monde. Et puis après, se poser d'autres questions sur d'autres choses.
D'accord, on reviendra parce que nous sommes à la radio, mais elle me fait des signes, donc on reviendra
sur ça. C'est pas très radiophonique.
C'est pour ça que j'explique aux personnes qui écoutent. Mais quand tu parles des outils pour comprendre ce monde, Raphaël, Tony et moi, on est à peu près de la même génération. On a eu beaucoup de cours de physique et de biologie à l'époque parce que le monde est physique, industriel, et c'est une base pour comprendre ce monde. Aujourd'hui, le monde devient de plus en plus informatique, donc il paraît naturel d'apprendre alors l'informatique en général, on y reviendra tout à l'heure, et pas simplement la programmation, aux enfants et aussi aux grands pour comprendre évidemment ce monde en pleine évolution. Tony Bassett, est-ce que tu veux compléter sur... pourquoi apprendre la programmation aux enfants? Pourquoi tu t'es lancé aussi dans cette... initiative après de longues années de services aux entreprises diverses et variées.
Alors je vais reprendre ce que disait effectivement Raphaël. Le monde aujourd'hui, des smartphones, il y en a partout, des tablettes, il y en a partout, des ordinateurs. Enfin, on est entouré d'objets programmables. Les enfants aujourd'hui sont spectateurs principalement de tous ces objets. Ils sont utilisateurs basiques et c'est malgré tout des outils qu'ils vont être amenés à manipuler demain. Et une des raisons qui nous a poussé à la création de TechKids, ça a été justement de pouvoir donner aux enfants la possibilité de devenir maître de tous ces appareils. Contrôler, comprendre comment fonctionne un smartphone, comprendre comment fonctionne un ordinateur, une tablette. Aujourd'hui, on a même eu des enfants qui venaient en nous disant « Voilà, moi j'ai un téléphone, je veux savoir comment ça marche ».
Donner les clés pour comprendre.
Voilà, exactement.
D'ailleurs, quand tu dis, c'est intéressant, tu dis smartphone, ordinateur, peut-être aussi simplement faire comprendre aux gens que finalement, un smartphone, c'est avant tout aujourd'hui un ordinateur.
Exactement.
De plus en plus un ordinateur et que finalement, la fonction téléphone n'est qu'une des fonctions de ce smartphone. Et d'ailleurs, c'est pas là-dessus que les fabricants communiquent, c'est plutôt sur les autres fonctionnalités. Donc voilà, on a bien compris l'intérêt... pour les enfants, mais aussi pour les gens qui animent finalement, c'est le côté fun dont a parlé Raphaël, ou amusant, je ne sais plus quelle expression tu as employée, mais ça fait partie aussi de l'informatique, c'est un côté fun. Et puis ce qui est intéressant aussi, ce que disait Ludine sur le fait d'expliquer à l'ordinateur ce qu'elle veut que l'ordinateur fasse, et non, parce que l'ordinateur est programmé par des êtres humains. Alors maintenant, on va parler un petit peu de vos deux initiatives un peu plus en détail, des initiatives très différentes sur leur fonctionnement et évidemment complémentaires. On va commencer peut-être par Raphaël et Ludine Pierquin sur les coding goûter. Alors, c'est quoi les coding goûter? Pourquoi vous les avez lancés? À quel moment? Expliquez-nous un petit peu ça.
La genèse des coding goûter, ça doit se passer en 2012. À un moment, on est plusieurs parents, j'ai envie de citer Jonathan Perret et Julien Dora, qui à se dire, c'est dommage, hein, on aimerait bien montrer ce que c'est que la programmation à nos enfants, mais il y a rien, enfin, il y a pas de support. On se souvient bien que quand on avait leur âge avec le programme informatique Liberté dans les années 80, il y avait des ordinateurs dans les écoles, mais il y a plus rien. Donc on a inventé quelque chose. Essentiellement, ça consistait à se dire, mais si on essaie de montrer un environnement de programmation, enfin un moyen de programmer à nos enfants, ils vont passer à autre chose très vite. Par contre, si on s'extrait à un endroit, comme on irait à un pique-nique, donc à un endroit spécifique, on n'est pas chez soi, et il y a d'autres enfants qui sont là, et il y a quelque chose de ludique, il y a d'amusant, puis on va essayer ensemble de patouiller, quoi, sans forcément savoir ce qu'on va faire, eh ben, peut-être que ça va marcher. Et en fait, ça marchait très bien, au sens où dès le départ, les enfants nous ont dit « mais c'est super, on a envie de recommencer ». Et on a recommencé, donc au début, c'était genre toutes les trois semaines, quelque chose comme ça. Et comme en plus, dans ma coopérative, on a une expertise sur comment on interagit quand on programme, donc de derrière l'ordinateur, comment on se transmet la connaissance ou ce genre de choses. Donc ça fait partie de la programmation professionnelle aujourd'hui, hein, c'est une activité qui est très sociale, contrairement à ce qu'on peut croire. Et bien, du coup, on a mis toute notre connaissance là-dedans et ça a donné un genre de format sur lequel on s'est dit, mais c'est tellement bien qu'on peut essayer de documenter ce format et encourager d'autres personnes à se lancer là-dedans. Donc, le week-end, donc, c'est plus le dimanche après-midi d'ailleurs, dans notre cas, que le matin.
Alors, je pense que le format précis, c'est d'un coding goûté.
À quoi ça ressemble? Je suis expert sur le sujet, donc il faut que j'arrive à rendre ça très court. On réunit des familles, pour le coup. Donc, on invite des familles, on n'invite pas des enfants, on invite des familles entières. Qui s'intéresse à la question et ça peut être au début dans notre cas c'est des familles avec au moins un adulte qui connaissait le sujet, mais souvent c'est celui qui est un membre qui s'intéresse à la question de mais qu'est-ce que c'est que la programmation. On se réunit pendant 4 heures, donc ça peut être un peu long. Au début, on explique le mode de fonctionnement, on dit bah, chacun va patouiller de son côté, enfin, on va essayer des trucs, on n'a pas...
Alors le terme que tu emploies, c'est patouiller.
Ouais, patouiller, okay. C'est on essaye, quoi. On essaye d'accord. des trucs, enfin, comme on ferait...
La main à la patte, quoi, en fait.
Voilà, et donc on propose pas de démarche pédagogique, on propose pas ce support, on dit aux gens, bah, si vous avez envie d'essayer de faire des choses, essayez-les, et si vous savez pas quoi faire, copiez sur vos voisins. Donc ça, c'est super important. Et donc, ces séances de patouille sont entrecoupées par d'autres séances que les enfants ont appelées spectacles, qui sont des moments où on s'arrête et ceux et celles qui le souhaitent montrent sur un grand vidéoprojecteur où ils en sont. Donc, c'est formidable. Alors, on ne montre pas ce qu'on a réussi à faire, on montre
ce qu'on a essayé de faire.
Ce qu'on a essayé de faire ou ce qu'on vient d'apprendre. Ou voilà. Et donc c'est très amusant de voir les enfants qui ont l'habitude. On a une jeune fille qui était très impressionnante, qui est habituée, qui disait bon ben voilà, je viens d'essayer de faire ça et ça marche pas. Point. Et c'est étonnant, mais en fait on le refait plusieurs fois. C'est-à-dire patouille spectacle, on le refait 3 fois en fait pendant la séance. Et les gens qui connaissent pas pendant les spectacles du coup commencent à voir ce qui se passe, voient les difficultés des autres, et puis peu à peu, bah, il se passe des choses entre les différents groupes qui se sont constitués, et au final, tout le monde apprend quelque chose. Donc dans ce format-là, puis à la fin, on débriefe, on discute entre nous de ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. C'est là, notamment dans ces discussions de fin, que les enfants ont dit bah, le moment-là, c'est le spectacle, enfin, c'est eux qui ont nommé le spectacle, c'est très amusant. Et donc à la fin, on a appris, et ce qui est intéressant dans ce format, c'est que les adultes ont exactement la même position que les enfants. C'est-à-dire, ils ne sont pas plus sachants ou moins sachants, et ils ne sont pas moins participants que les enfants, d'une part, et du coup, il n'y a pas de sachants. Enfin, il n'y a pas d'expert qui vient animer. Du coup, ça a ce formidable intérêt que si moi, je suis un adulte, que je suis intéressé par la question, que j'ai envie que mes enfants montrent un truc à mes enfants, mais je ne suis pas expert en pédagogie, c'est pas grave en fait, je peux me lancer et il va se passer quelque chose pourvu qu'on soit suffisamment nombreux et qu'on se mette pas trop la pression. Et puis dernière chose évidemment, on vient avec un gâteau ou un goûter, comme ça qu'on partage, comme ça permet à chacun de contribuer d'une manière ou d'une autre. Et en général à la fin on en ressort plutôt satisfait.
Alors tout à l'heure, quand je passe la parole aussi à Ludine, évidemment, tout à l'heure quand on parlera de Tech Kids Academy, c'est une des différences, le rôle des parents, je suppose, dans les deux initiatives. Alors toi, Ludine, bon, ta position est un peu particulière, étant la fille d'un informaticien. Donc première question déjà, est-ce que tu es venue parce que en fait ton papa t'a invité à le faire, ou est-ce que tu étais déjà intéressée par le sujet? Et deuxième question, voilà, comment ça se passe pour toi en tant que coding gouteux, c'est-à-dire côté enfant? Qu'est-ce que tu en as retiré? La partie, effectivement, spectacle, est-ce que ça t'a pas impressionné? Parce que, bon, moi, j'ai participé à un coding goûter il y a quelques années, et mon fils, par exemple, avait refusé de montrer ce qu'il avait fait, parce que, bon, il est un petit peu timide, etc. Et donc, ça doit être un peu impressionnant de montrer ce qu'on a essayé de faire devant les autres. Donc, comment ça se passe pour toi?
Alors, déjà, première question, je me souviens que donc mon père m'avait dit ça te dirait qu'on fasse ça. J'avais dit ouais, pourquoi pas. Et donc, on y était allé avec, je pense que les premiers, on n'était vraiment pas nombreux. Et ça m'avait plu parce que l'ambiance, tout ça, et puis enfin ça m'avait... Alors ça s'est arrivé plus tard, mais le fait que des adultes viennent demander de l'aide, par exemple, c'était pas quelque chose que je connaissais avant. Et parce que donc avant j'ai fait beaucoup de Scratch et j'étais pas mauvaise à un moment.
Alors Scratch, c'est un des logiciels utilisés, on en reparlera tout à l'heure.
Et du coup c'était fréquent qu'il y ait des personnes plus âgées que moi qui viennent me demander de l'aide et solliciter mon expertise. Et ensuite sur... Alors la deuxième question, j'ai oublié, pardon, mais c'était...
Bah sur comment ça se passe pour toi, est-ce que ça t'a impressionné le côté spectacle?
Alors, je ne me souviens pas d'avoir été particulièrement impressionnée par ça. Non, justement, c'est plutôt gratifiant parce que même si on a raté, au final, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Et aussi, comme on montre, donc on montre la réalisation, mais on montre le code derrière. Et parfois, même si ça ne marche pas, les gens sont contents de voir la réalisation.
Alors ça, c'est un point important que tu cites, c'est que l'erreur est valorisée. Mm-hmm. Ce qui n'est pas toujours le cas dans de nombreuses activités, aussi à l'école, où des fois, c'est plutôt l'erreur qui est sanctionnée. Là, l'erreur est valorisée, parce que l'erreur fait partie du code de l'apprentissage. Et d'ailleurs, je signale pour les personnes qui nous écoutent qu'on a consacré une émission sur le métier du développement logiciel. Donc, c'était le 14 mai 2019. Donc, le podcast est disponible avec un développeur et une développeuse. Et je crois que c'était un des sujets que ces deux personnes abordaient. C'était la notion de l'erreur qui permet de progresser et dont on ne doit pas avoir peur.
Oui, voilà, c'est ça, parce que au final, si pour pas faire d'erreur, il faut juste pas essayer. Et donc, si on a testé, parfois ça rate, mais c'est pas ça. Enfin, c'est pas tant le résultat et le produit final qu'on a qui compte, c'est plus la démarche. Et ça, c'était chouette, parce que parfois, ça nous arrivait de faire des trucs qui marchaient pas. Et puis, au final, on avait quand même un truc et on avait appris derrière. Donc,
D'accord. Voilà. Bon, on va évidemment revenir sur les coding goûter. On va passer un petit peu maintenant à la présentation d'une initiative un peu différente quand même dans le fonctionnement. Donc Tech Kids Academy, donc Tony Bassett. Alors, tu expliquais tout à l'heure pourquoi tu as lancé cette académie avec ton associé. Alors, comment ça se passe concrètement pour les enfants et puis pour les parents?
Alors, comment ça se passe typiquement? On a différentes formules. On a une formule, alors à la différence des coding gotés, nous on fonctionne à l'année en fait comme une activité extrascolaire. Donc on a différents ateliers selon des tranches d'âge. On regroupe les enfants de 7-9 ans, 10-12 ans et 13-17 ans. Et ce qui se passe, c'est que à l'année, on a découpé l'année en 5 cycles, 4 entièrement dirigés par nous, dirigés dans le sens où... un petit peu comme un cours, on va leur expliquer un certain nombre de choses. Le cinquième cycle est un cycle projet. Les 4 cycles qu'on propose sont autour de la programmation. Donc, en fonction des âges, on va utiliser des outils et des langages de programmation différents. Ça va de Scratch pour les plus petits à Python pour les plus grands. Il va y avoir un cycle sur l'électronique, puisqu'aujourd'hui, l'électronique est programmable différemment. Alors, sur les petits,
quand
on est plutôt...
Quand tu parles d'électronique, c'est notamment les robots programmables?
Entre autres, là, c'est sur la robotique, en fait. D'accord. On a aussi des cycles sur la robotique. Là, sur l'électronique, on est autour des cartes Arduino, des objets connectés. Donc, il y a plutôt tous ces aspects-là qui sont abordés. Alors, sur les petits, on est plutôt sur une initiation, une présentation de l'électricité, de la robotique, de l'électronique, pardon. Et sur les plus grands, on est sur la conception de schémas électroniques un peu plus aboutis. On a un cycle justement sur la robotique où là, de la même manière, on va présenter dans les grandes lignes, les différents aspects que l'on trouve autour d'un robot. Qu'est-ce qu'un capteur? Qu'est-ce qu'un moteur? Comment on fait interagir tout ça ensemble? Et on a un cycle sur le design, sur le dessin, le pixel art, et sur la modélisation 3D. Donc tous ces aspects-là sont dirigés à travers des petits ateliers où de temps en temps, on va se permettre de les challenger, de vérifier est-ce qu'ils ont bien compris les notions qu'on a essayé de leur faire comprendre, avec justement ces cas d'échec dont on parlait, où on dit, mais de toute façon, tu étais trompé, c'est pas grave. À la différence où justement à l'école on dit « Ouh là là, mais tu t'es trompé, c'est catastrophique ». Non, là tu t'es trompé, et souvent les enfants finissent par comprendre d'eux-mêmes « Je me suis trompé, ah ben oui, tiens, j'ai interverti deux blocs, je me suis trompé ici, je me suis trompé là ». Ils se corrigent et arrivent au résultat. Et ce qui est souvent intéressant dans ces challenges, c'est de voir que autour de la table, sur une même question posée, ben on a parfois des solutions complètement différentes.
D'accord. Alors, je précisais qu'une des différences aussi entre vos deux structures, c'est que les coding goûtés, ben, n'importe quelle personne peut venir. Et la seule condition, c'est d'amener un goûter, en fait, quelque part.
Oui.
Et que donc Tech Kids Academy, c'est une académie plus classique avec un format d'abonnement ou de paiement des ateliers. Et oui. Donc, physiquement, vous avez une académie à Saint-Germain-en-Laye et une à Paris.
Paris 15e, tout à fait. Voilà. On a deux centres aujourd'hui qui nous permettent d'accueillir les enfants à l'année. Et en stage pendant les vacances scolaires.
Voilà, alors je précise aussi pour les personnes qui n'habitent pas en Île-de-France qu'il y a des coding goûtés dans d'autres régions françaises et sans doute dans le monde. Hein, donc sur le site codinggoûté.org, on retrouve les informations. Et qu'évidemment, il y a des académies du même style que Tech Kids Academy en Île-de-France ailleurs et puis dans les autres régions françaises. Alors, l'une des différences en tout cas entre les deux initiatives, c'est le rôle des parents. C'est-à-dire que Tony Bassett, dans Tech Kids Academy, bah, le rôle des parents, quelque part, entre guillemets, si j'ai bien compris, alors, à moins que peut-être qu'il y ait une participation qui est plus que ça, c'est d'amener les enfants, de payer finalement les frais, mais ils ne sont pas impliqués plus que ça. Ou est-ce qu'il y a des initiatives pour essayer de les impliquer ?
Alors, dans les activités à l'année et les stages, ça peut se résumer à tout ça. Il n'empêche qu'on a commencé à réfléchir à une nouvelle activité, puisque voilà, on a appris à programmer, nous, quand on était plus jeunes, avec Alexandra, on a tous les deux, et même vous, je pense, je dis vous, c'est Raphaël et toi, Fred. On a commencé avec du basique. On a lancé une petite initiative aujourd'hui de journée rétro gaming, où typiquement, on va proposer aux parents et aux enfants de réaliser différentes activités. Donc les parents...
Alors, c'est quoi le rétro gaming ?
Rétro gaming, c'est
les jeux anciens, c'est ça ?
C'est les jeux d'avant, c'est les jeux auxquels on a joué quand on était petit. Si je parle de Space Invaders, je pense que aujourd'hui tout le monde voilà se dit ah ben oui, j'ai joué à Space Invaders quand j'étais plus jeune. Je parle de la génération enfin de notre génération à nous. Les plus jeunes aussi ont découvert Space Invaders, mais c'est autre chose. Et donc typiquement lors de ces journées rétro gaming, c'est des activités transgénérationnelles. Les parents et les enfants ont tous les deux une liste de petits challenges avec des outils adaptés. Donc pour les enfants, comme on l'a cité tout à l'heure, on travaille avec Scratch. Pour les parents, ben on les a placés derrière du basique. Alors le basique aujourd'hui, c'est un petit peu je ne sais même pas si il est encore utilisé de manière industrielle. Enfin, il y a eu des évolutions du basique, mais en tout cas, là, on est vraiment sur le basique de début des années 80. Donc, c'est assez marrant de voir des parents qui, parfois, n'ont d'ailleurs jamais programmé, se lancer sur le basique, réussir les challenges, et surtout, à la fin de la journée, se dire « Mais c'est génial, j'ai réussi à faire l'ensemble des challenges. » Donc ça, c'est aujourd'hui, on essaye aussi de... Puisque les parents cherchent aussi à comprendre ce que font les enfants, et à travers cette initiative de... des journées rétro gaming, on essaye aussi de permettre aux parents et aux enfants de vivre une expérience un petit peu unique. Voilà.
Et finalement, ça permet, si je comprends bien, à la fois aux parents et aux enfants, de comprendre que finalement l'informatique, c'est pas un monde mystérieux, que c'est un monde qu'on peut comprendre, sur lequel on peut agir. Raphaël, tu veux réagir, j'ai l'impression.
Ouais, tout à fait. Nous, côté coding booté, à un moment, je m'amusais à dire que le coding booté, c'était pas du tout une activité pour apprendre la programmation aux enfants, c'était pour apprendre aux adultes la programmation, et que c'était les enfants qui étaient les médiateurs de tout ça. Et de fait, ça marche très bien, au sens où quand on met un adulte et un enfant en binôme derrière un même écran, en particulier avec Scratch, qu'on parle de Scratch, où c'est très intuitif, il y a quelque chose qui marche très bien. C'est-à-dire, les enfants, souvent, on les voit, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de casser l'ordinateur, ils sont prêts à essayer plein de trucs, ils sont très spontanés, ils vont à toute vitesse, ils ne sont pas du tout inhibés, alors qu'un adulte, il est pris par tous ces films où il a vu qu'au moment où le codeur il intervient, il y a des lettres vertes cryptiques, et que le message qu'on a reçu depuis longtemps, c'est compliqué, c'est trop compliqué pour vous, n'essayez même pas de comprendre, si vous essayez de comprendre, c'est que vous êtes un extraterrestre. Donc voilà, des adultes sont pourris par ça, mais par contre ils ont une structure, enfin, ils ont une intention qu'ils arrivent à garder, ils arrivent à garder leur intuition, enfin leur focalisation, et le mélange des deux, ça fait quelque chose de formidable. formidable. Et moi, j'ai vraiment, c'est un truc que j'adore voir apparaître dans les binômes qui se créent au sein des familles. C'est les deux apprennent quelque chose. Et de fait, on a des adultes qui repartent en ayant appris à programmer. Enfin, typiquement, la mère de mes enfants a appris à programmer par accident. Enfin, elle est venue parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire que suivre ses enfants. Et au final, elle a appris des choses. Et au départ, les binômes qui se constituent sont souvent au sein de la famille. Et puis, il y a des relations qui se créent entre les groupes, les gens se retrouvent. Et c'est pas rare de retrouver un spectacle. Un binôme d'adultes qui ne sont pas de la même famille et qui sont contents de présenter ce qu'ils ont fait souvent, et qui sont heureux de leur réalisation alors que leurs enfants sont en train de jouer parce que 4 heures ça fait un peu long et qu'ils ont besoin de se dégourdir les jambes par exemple. Et puis on a aussi des binômes d'enfants qui se créent mais en tout cas les adultes ont vraiment quelque chose à apprendre de ça et c'est même vital, j'ai l'impression qu'ils arrivent à sortir de ce complexe qui a été inculqué depuis longtemps par rapport à la programmation.
Alors, ça me fait venir une question à l'esprit. Les codings goûtés, donc c'est depuis 2012, si je me souviens bien.
Oui.
Tech Kids Academy, c'est depuis combien de temps ?
Depuis 2014.
Depuis 2014.
Mais le projet est
plus ancien.
Le plus ancien. En fait, je pense que 2012 est une année charnière, puisqu'on a commencé à réfléchir justement au projet Tech Kids en 2012. Et je sais aussi que certains concurrents ont commencé aussi à réfléchir sur leur projet cette année-là.
Alors, ma question étant, est-ce que sur le long terme, est-ce que vous avez des enfants, des familles qui sont là depuis le début et qui progressent, qui continuent, ou est-ce que c'est vraiment que des gens qui ponctuellement viennent Coding Goûté et puis Tech Kids Academy?
Ok. Alors, Ludine me fait signe pour me dire que
c'était 2011.
Attention.
Ah, voilà. 2011.
On était là avant.
Alors, est-ce qu'on voit des gens revenir? C'est un truc qu'il faut savoir, c'est que l'initiative d'un coding goûté, c'est pas, il n'y a pas des organisateurs de coding goûté, c'est des parents qui ont envie d'essayer quelque chose et qui trouvent un local et qui réunissent suffisamment de monde. Et du coup, nous, on est une communauté. En fait, un coding goûté, d'une certaine manière, c'est une communauté de famille, ou un petit noyau de famille qui se retrouve, qui décide de se retrouver et qui attire autour d'eux un certain nombre de personnes. Donc, on peut dire que, moi, j'ai vu des familles venir et revenir. Et c'est pas tant un coding goûté, c'est en faisant plusieurs coding goûtés en fait qu'on voit la magie s'opérer, puisqu'au départ quand on débarque on est perdu, on sait pas ce qu'on doit faire, on copie un peu sur les autres et puis très vite on devient à l'aise avec le processus et on se retrouve à expliquer aux autres. Et ça fait partie du processus d'apprentissage. Après, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des enfants qui sont devenus experts. En fait, au bout d'un moment, les enfants grandissent. Mes enfants, qui étaient très contents au départ de venir avec leurs parents faire des activités, au bout d'un moment, ils deviennent ados. Et alors, passer un dimanche après-midi à manger des gâteaux avec les parents, c'est la dernière chose qu'ils ont envie de faire. Donc après, il a fallu qu'on innove et qu'on trouve d'autres formats. Mais pour le coup, il y a vraiment une forme de récurrence, même si en fait c'est complètement libre, puisque les gens viennent en fonction de leur disponibilité
de leur
week-end
envie,
et leurs envies. Voilà.
D'accord. Voilà. Tony, de ton côté, est-ce que tu vois des enfants qui reviennent, enfin des familles qui reviennent?
Oui. Alors depuis le début, depuis le début, mais on a de nombreux enfants maintenant qui reviennent donc tous les ans, donc qui ont commencé, au cycle 0, 7-9 ans année 1, et qui sont aujourd'hui, qui viennent d'intégrer donc les 10-12 ans année 2. Donc pour le coup, ça fait 4 ans qu'ils sont chez nous. Je pense à plusieurs, mais il y en a un qui m'avait frappé déjà au tout début de l'initiative, c'est Maximilien, qui à l'époque avait 6 ans 3 quarts, et on lui avait posé la question, parce qu'il était vraiment très 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 passionné, et on lui avait demandé si demain il voulait continuer faire de l'informatique au quotidien, etc. Il nous a répondu, donc du haut de ses 6 ans 3 quarts, non pas du tout, moi demain je veux être nanobiologiste. Ok, très bien. Bon, on se dit, il a entendu un joli mot. Il s'est dit, je ferai ça plus tard. On lui a posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire être nanobiologiste. Et là, il nous a expliqué exactement ce qu'était la nanobiologie en sortant des termes que je ne pourrais même pas citer, que je n'ai pas compris. Maximilien, c'est exactement ce qu'il veut faire demain. Mais malgré tout, l'informatique, ça le passionne. Et comme nous, il a trouvé un endroit où il peut laisser libre cours à sa passion, essayer, développer, s'améliorer et aider. Puisqu'il y a aussi l'entraide. L'entraide fait aussi partie des valeurs qu'on essaye d'enseigner aux enfants. C'est, si tu as compris, tu as le droit de demander à tes camarades autour de toi qui a besoin d'aide et d'aller l'aider, de lui expliquer.
D'accord. Alors, tu parles de Maximilien. Ça me fait penser à une question pour Ludine. Mm-hmm. Enfin, deux questions pour Ludine. La première, est-ce que tu comptes devenir développeuse dans le
je
futur.
Je réponds tout de suite, non.
Voilà, donc tu as d'autres activités. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire?
Alors non plus,
non
mais
plus,
je
okay.
sais que je ne veux pas faire quelque chose dans l'informatique.
D'accord.
Et ouais, donc par rapport à ce que tu disais, c'est intéressant parce que quand je disais que je faisais de la programmation à mes amis qui ne savaient pas ce que c'était, mais donc après que j'ai expliqué, comme quand j'étais petite, donc je suis née en 2001, ce n'était pas du tout un truc courant de faire de la programmation le dimanche. Enfin, mes amis faisaient du tennis ou éventuellement du dessin, mais ce n'était pas une activité courante dans le paysage extrascolaire. Et du coup, c'était direct catalogué, genre... tu vas faire ça plus tard, enfin, tu prends de l'avance. Alors que non, pas du tout. Enfin, j'entre en Hippocagne dans 2 jours, donc en prépa de lettres. Oui, j'ai fait informatique l'année dernière, mais c'est plus un loisir qu'autre chose. Et c'est pas du tout... enfin, je compte pas en faire ma vie. Et c'est bien. Oui, voilà, c'est une activité et ça fait des cordes en plus à son arc, on va dire. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'envisage professionnellement. Et ça, c'est quelque chose... enfin, c'est une question qui revient souvent pour moi.
Alors, Anthony, avant la pause musicale, vas-y.
Oui, pour réagir justement là-dessus, on a de nombreux enfants, j'ai cité le cas de Maximilien, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants qui nous disent « moi, l'informatique, c'est une passion ». Il y en a, c'est les échecs, c'est le foot, c'est le tennis. Moi, c'est l'informatique. J'aime pas faire de sport, mais par contre, j'adore les ordinateurs et j'aime comprendre comment ça marche. Mmh. Et demain, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Comme Maximilien, on en a beaucoup qui nous disent « bah non, je ne me destine pas nécessairement à devenir informaticien, développeur, administrateur ou autre. C'est, j'ai juste envie de découvrir ce monde et de m'amuser avec des gens qui ont cette même passion. »
Là, c'est un loisir plus qu'autre chose.
Bon, bah, très bien, on va faire une pause musicale et on va revenir après sur ce sujet donc, qui mélange à la fois la compréhension du monde, les rencontres sociales et le fun. Donc nous allons écouter Kings par Cyber SDF et on se retrouve juste après.
Cause commune.
D'écouter Kings par Cyber SDF, disponible sous licence libre Creative Commons attribution partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Notre sujet, que nous allons poursuivre, porte sur l'apprentissage de la programmation pour les enfants, mais aussi pour les grands, comme on l'a vu en première partie. Donc, nos invités, donc Tony Bassett de Tech Kids Academy, Raphaël Pierquin de Coding Goûté, Ludine Pierquin de Coding Goûté, enfin Coding Goûteuse, et qui va faire bientôt Hippocane, comme quoi on peut apprendre l'informatique et ne pas en faire son métier, en tout cas la programmation. Alors justement, Ludine, on va poursuivre avec toi, parce que l'informatique, traditionnellement, alors l'apprentissage du code, du langage, on se dit souvent, c'est pour les garçons. Alors, on sait bien que c'est pas vrai, tu en es la meilleure preuve, mais est-ce que toi, en tant que fille, tu as eu des difficultés, peut-être par exemple quand tu fais des présentations dans le cas des coding goûtés, quand on parlait tout à l'heure, est-ce que tu as eu des difficultés par rapport aux garçons qui ont traditionnellement souvent prennent beaucoup de place? Comment tu vois ça, cette place finalement en tant que femme dans des coding goûtés, de l'apprentissage de la programmation?
Alors, dans les coding goûtés, je me suis jamais sentie une fille. Enfin, j'étais un enfant et il y avait des garçons, ok, mais c'était pas un sujet. Et je me suis jamais faite bâcher avec des guillemets parce que j'étais une fille. Alors, après, plus tard, donc j'ai fait informatique et sciences du numérique au lycée. Donc, en terminale S, il faut qu'on choisisse une spécialité. Et donc, informatique et sciences du numérique, c'est une spécialité possible. Et donc, avec ma bande d'amis, on était trois à vouloir faire informatique et sciences du numérique, donc deux garçons et moi. Et on en parlait à un quatrième ami, et donc on lui a dit qu'on voulait faire tous informatique. Et donc mes deux autres amis n'avaient jamais touché à un ordinateur de leur vie, moi si, mais ils le savaient pas forcément. Et donc le quatrième ami qui nous parlait, c'est compliqué, il y a beaucoup de personnages, mais il m'a dit, mais t'y connais quelque chose toi?
Alors le quatrième ami, c'était un garçon, c'est ça?
Oui, c'était un garçon, que des garçons sauf et moi.
Ouais.
Et il a pas du tout posé la question à mes deux autres amis garçons, qui y connaissaient moins que moi pour le coup, et du coup j'étais pas très contente, et ils ont même pas compris pourquoi ça m'agaçait en fait, donc... Oui, les femmes sont 10% dans l'informatique, je crois, donc c'est vraiment peu. Et c'est important, et même dans ma classe d'ISN, on était 5 filles sur les 30, donc c'est quand même c'est plus que les autres années, mais ça reste peu. Et dans la classe d'ISN, donc d'informatique et sciences du numérique, pardon, c'est le sigle,
ouais.
Oui, c'est arrivé qu'on se fasse, qu'on se moque de nous et qu'on dise, c'est des filles, elles savent pas faire. Alors que pour le coup, certaines étaient bien meilleures que d'autres garçons qui étaient là par dépit. Bon, c'est un peu triste, mais c'est ça, l'informatique. Et ouais, donc c'est pas drôle parce qu'il y a plein de clichés et tout ça, que les femmes savent pas faire avec un ordinateur. Et parfois c'est vrai, mais pas plus que les hommes, malheureusement. Et donc ouais, je pense que ça c'est hyper important, s'il y a des filles ou des femmes qui nous écoutent, allez on y va, hein. c'est pas difficile et on peut le faire.
C'est à la portée de tout le monde.
Voilà.
Alors, je vais donner la parole à Raphaël, Tony, mais en même temps je vais vous poser une question, et aussi à Ludine en même temps. Est-ce qu'il y a un intérêt à organiser donc des ateliers ou des coding goûtés non mixtes, donc par exemple qu'avec des filles? Alors je vous pose la question et puis je vous laisse réagir. Donc il y avait Tony qui voulait réagir. Ou par exemple dans tes ateliers, Tony, est-ce que
alors,
il y a plus de garçons, plus de filles? Comment ça se passe? Et puis Raphaël, Pierquin aussi après.
C'est très variable. Enfin, en fonction des ateliers, des créneaux, enfin, puisque tout dépend aussi de la disponibilité des enfants. Mais moi, j'ai souvenir d'ateliers qui étaient majoritairement composés de filles. D'autres, enfin, même si on n'a pas vraiment fait de statistiques là-dessus, mais comme ça, vu de nez, je pense qu'il y a effectivement une plus grande majorité de garçons à nos ateliers que de filles. Mais on a eu des ateliers où on avait, au maximum dans nos ateliers, il y a 12 enfants. J'ai souvenir d'ateliers où on avait 8 filles et 4 garçons. Et pour le coup, enfin, voilà, il n'y a pas de... Je dirais pas qu'il y ait vraiment de... Nous, on cherche pas à faire des groupes de filles ou des groupes de garçons. Au contraire, on est pour la mixité, on est pour la différence, quelle qu'elle soit. Et c'est justement dans cette différence qu'on va aller chercher ce petit plus, ce petit détail qui va nous permettre de progresser, que ce soit filles-garçons, que ce soit, comme je dis, sur d'autres points de différence.
D'accord. Raphaël Pierquin ?
Alors, sur les coding goûtés, alors... Le groupe de départ, on était des papas, mais ça reflète effectivement ce qu'on voit dans notre métier. Mais c'est assez frappant de voir que parmi les enfants, il y avait plus de filles que de garçons. Mais c'était essentiellement lié au fait que les familles qui venaient avaient, par hasard, plus de filles que de garçons. Mais bon, statistiquement, on va dire, il y avait autant de filles que de garçons qui venaient avec la masse. Et moi, j'ai jamais vu de différence d'intérêt ou de capacité en fonction du fait que c'était une fille ou un garçon.
Mais alors, je me suis posé une question sur les spectacles dont tu parlais. Est-ce qu'il y avait plus de garçons ou c'était pareil?
Alors, sur la prise de parole en public, ce n'était pas des choses auxquelles j'étais très sensible à l'époque. Peut-être que, mais je n'ai pas le souvenir de ça, pour d'accord. le coup. Par contre, quelque chose qui me frappe, c'est que bon, j'ai eu d'autres initiatives, et notamment là, j'anime depuis un club de programmation pour lycée, collège, depuis 5 ans maintenant. Donc là, c'est plus des ados. Et là, c'est frappant de voir que ceux qui viennent vers nous sont bien ceux plutôt que celles, parce qu'il y a beaucoup plus de garçons. Et je pense que là, pour le coup, c'est pas une histoire de goût, mais vraiment, c'est des attentes de la société qui font qu'on ne pousse pas du tout les femmes dans cette direction. J'ai parlé avec des membres d'une association qui s'appelle Wifi, qui essaye de faire la promotion du code et de la technologie auprès de jeunes filles, et elles ont énormément de difficultés en fait à trouver en fait des filles qui seraient intéressées par ça. Et il y a eu des initiatives, enfin, je laisserai Ludine parler des initiatives qu'on a eues vis-à-vis de filles, mais c'est vraiment, s'il y a quelque chose d'étonnant à résoudre autour de ça. Je pense que en tant qu'adulte, on crée vraiment un contexte qui éloigne les filles de la technologie, et c'est bien dommage.
Alors, avant de passer la parole à Ludine, ça me fait penser, alors là c'est, j'ai carrément oublié le nom, mais peut-être que tu vas retrouver toi. Julien Dora, je crois qu'il participe au lancement d'une école de programmation.
Absolument. J'étais résolu d'y en parler au moins avant la fin de l'émission. Adaptech School.
Ah, voilà, Adaptech School, voilà.
Voilà, qui est une école qui est conçue par des femmes, avec le soutien de certains hommes, mais avant tout par des femmes, et qui s'adresse aux femmes post-bac. Donc la première promotion en train de se lancer. S'il y a des personnes qui sont intéressées, que ce soit pour apprendre ou pour aider d'une manière ou d'une autre. On mettra les références.
On mettra les références sur le site de l'April, donc c'est Adatech School. Et je vais répéter qu'on a consacré une émission sur le métier de développement logiciel, même si là, le but n'est pas que tout le monde devienne développeur ou développeuse. Et dans cette émission, donc c'est le 14 mai 2019, on avait un développeur, donc Emmanuel Ravia, et une développeuse, Katia Resti, qui expliquait notamment qu'on peut faire ce métier tout au long de sa vie, que ce n'est pas simplement une étape dans le monde de l'informatique avant de devenir chef de projet ou autre. On peut rester développeur et développeuse du logiciel libre jusqu'au bout, parce que ça bouge tout le temps, parce que c'est fun. Donc je vous invite à écouter ce podcast sur le site de l'April. Donc Ludine Pierquin sur les initiatives dont venait de parler Raphaël.
Oui, alors j'avais participé à l'organisation d'événements pour les femmes et le code avec Ladies of Code Paris, donc, qui est une communauté de femmes qui codent sur Paris, du coup, d'où le nom. Et on avait organisé un forum des métiers de l'informatique avec uniquement des femmes pour parler de leur métier. Et donc, on m'avait donné des affiches pour que je les affiche dans mon lycée, ce que j'ai fait. Et personne n'est venu. Moi, après, c'est peut-être lié aussi au fait que dans un lycée, généralement, on ne lit pas les affiches qu'il y a dans les couloirs. Mais bon, il y avait... Et donc, j'étais allée au forum des métiers et il n'y avait aucune fille de moins de 30 ans, je pense. Et c'était essentiellement des femmes en reconversion. Et donc, qui étaient très contentes de trouver des femmes qui parlaient de leur métier. Mais il y avait, je pense... 6 intervenantes en tant que professionnelles, ce qui est peu pour un salon des métiers. Mais c'était quand même bien, et c'est pas vraiment pour l'apprentissage du code aux enfants, du coup, mais c'est un truc qu'il faudrait faire plus tôt, du coup. Et donc, oui, je voulais dire un autre truc, j'ai oublié. Oui, donc on n'est pas du tout encouragé. Donc oui, voilà. Au coding goûté, je ressentais pas du tout le fait que j'étais une fille, c'est venu bien après. Et c'est peut-être aussi pour ça que dans vos ateliers, il n'y a pas encore de différence, je sais pas. Mais il y a encore le gros cliché de quelqu'un qui fait de la programmation, c'est donc déjà un homme, c'est un gros nerd devant son ordinateur. Et c'est pas vrai, déjà. Et ouais, enfin, faudrait casser ça et encourager plus les filles. Même mon prof d'informatique, en fait, était très machiste et disait alors les filles, on n'y arrive pas. Ce qui n'est pas super. Et la filière ISN n'était pas du tout promue. Enfin, pour les filles, on disait en fait, SVT, c'est sympa.
Sciences et
vie de la Terre.
Sciences et vie de la Terre.
Voilà, ouais. Donc la biologie, la matière la plus littéraire des matières scientifiques. Donc il y a encore des progrès à faire au niveau du programme au lycée et au collège de manière générale, je pense.
Alors merci pour la transition, oui. Ludine, parce que tu vas poursuivre. Une des questions, justement, donc tu as parlé du programme numérique et sciences informatiques qui existe depuis 2012, je crois, donc, notamment pour la terminale. Donc c'est ce que tu as fait.
Oui.
Donc est-ce que tu as trouvé l'enseignement complémentaire de ce que tu avais dans les coding goûtés, est-ce que tu as appris des choses? Quel est ton retour d'étudiante, de personne qui a suivi ce cursus?
Alors, j'ai beaucoup plus appris pendant les coding goûtés que pendant mon année d'informatique et sciences du numérique au lycée. Donc après, c'est peut-être lié aux conditions, parce qu'on avait peu d'ordinateurs, c'était des vieux ordinateurs, on était plusieurs sur le même. Et on ne les avait pas pendant les évaluations, ce qui est un peu...
C'est-à-dire que vous faisiez des évaluations...
Par écrit.
Par écrit, d'accord.
Voilà, donc... Après, c'est peut-être une question de budget de mon lycée, je ne sais pas non plus, mais donc on avait des... La façon dont se déroulaient les cours, c'était qu'on était par binôme, donc un binôme par ordinateur, et on faisait essentiellement du Python, on a fait un peu du HTML, donc on avait un polycopier avec des programmes qu'on recopiait, on voyait ce que ça faisait, et puis voilà. Et donc le but de l'année, c'était de présenter un projet à nos professeurs à la fin, donc un projet qu'on aurait codé de A à Z, et c'était notre note du bac. Et on n'a pas été très accompagné du tout dessus, enfin, on s'est complètement débrouillé, même ce qui est bien, mais on n'a pas du tout eu d'accompagnement spécifique ni rien. Encore une fois, je ne sais pas si c'est spécifique à mon lycée ni rien. Et je sais aussi que, comme il y a la réforme du bac, ça va changer. Donc j'espère en bien, et je ne pourrai pas vous parler de ce qui va se passer après. Mais du coup, cette année, si, j'ai appris 2-3 trucs en Python, mais de manière pas du tout pédagogique, ni ludique, ni rien. Et je n'ai pas particulièrement apprécié mes cours d'informatique, alors que pourtant, j'ai beaucoup aimé les Koning Goûter. D'ailleurs, j'en ai fait pendant très longtemps, donc c'est bien la preuve. Et voilà, encore
d'accord.
Une chose dommage.
Alors, on consacrera une émission avec notamment des enseignants et puis peut-être si on arrive à avoir des élèves pour avoir un retour d'expérience, on va dire, et interne de l'école et aussi les évolutions. Mais je posais une question collective parce que dans le programme numérique et sciences informatiques, il n'y a pas que la programmation, il y a l'enseignement normalement de l'informatique globalement, donc l'informatique avec la représentation de l'information, l'algorithmie, les langages de programmation et aussi toute la partie matérielle, donc ordinateur et réseau. Est-ce que dans vos initiatives, Raphaël, Pierre Quint, Tony Bassett, est-ce que vous abordez ces notions-là, si oui, lesquelles, ou alors pas du tout ? C'est-à-dire l'apprentissage de l'informatique plus globalement. Tony Bassett.
Alors, dans les, nous, on l'aborde plutôt avec les plus grands. On va plus loin sur les différences de matériel, différences des systèmes d'exploitation. On leur explique un petit peu à quoi sert un système d'exploitation, parce qu'on a quand même des enfants qui nous disent mais ça leur parle pas plus que ça. Il y avait un autre... Oui, les différents langages. Alors, différents langages, j'en ai cité deux tout à l'heure, Scratch et Python. Mais c'est vrai qu'on utilise différents langages. Il nous arrive de faire un petit peu de Java, il nous arrive de faire du C, du C Sharp, du C++, en fonction des besoins. Donc, on diversifie, on présente aux enfants un maximum de langages, même si notre objectif n'est pas de faire les ingénieurs de demain. Ça reste une passion qu'on transmet aux enfants qui ont envie d'approfondir tout ça. Mais malgré tout, on aborde tous ces sujets. L'algorithmique, quelle est la différence, pourquoi, et ce qui est intéressant aussi, alors je vais reprendre, alors c'est pas tout à fait le show, mais lorsqu'on fait des challenges et que on voit une réalisation du challenge un petit peu technique et avancée, on va demander à l'enfant de venir expliquer à ses camarades pourquoi et comment il est arrivé à ce résultat. Pourquoi il a choisi ses blocs si c'est avec Scratch, pourquoi il a utilisé ses lignes de code si c'était un langage autre. Mais on aborde malgré tout, on essaye d'aller au-delà de juste le code pour le code.
D'accord. Raphaël, Pierre Quint ?
Ma réponse sera un peu différente. De notre côté, comme il s'agit de s'amuser avant tout, il n'y a pas vraiment de cursus ou de programme qui est pensé. On va avant tout creuser dans la direction où il y a de la curiosité, pour le coup. Et si y a une personne qui a la chance d'en savoir plus que les autres, elle peut se retrouver à expliquer ce qui lui semble pertinent au moment là où la question est posée. Mais il n'y a pas... Enfin, la programmation ou le code... Enfin, pour moi, j'emploie les deux mots pour dire la même chose. Pour le coup, c'est vraiment... Enfin, nous, on met beaucoup l'emphase sur... l'aspect créatif, hein, et pas vraiment sur les notions qui vont autour, à moins que ça commence à entraver, créer des difficultés de compréhension pour les réalisations qui sont en train d'être faites.
D'accord. Tu voulais réagir,
Est-ce que je peux juste revenir une seconde sur l'apprentissage de l'informatique à l'école ? C'est juste que tout à l'heure, on parlait des erreurs qui étaient valorisées dans les initiatives de Tony et de mon père, du coup. C'est pas le cas à l'école. Par exemple, la première évaluation qu'on a faite en ISN, on a eu, la moyenne, c'était 6. J'ai eu 3. Et on s'est tous fait crier dessus très fort. Et ça, c'est un... Je pense que la manière dont c'est enseigné à l'école, c'est plus... Ça amène à dégoûter les élèves de l'informatique. Et bon, si les professeurs m'entendent, changer ça. Mais du coup, c'est... Enfin, ouais.
Mais est-ce que ton professeur était un professeur qui avait eu une formation sur l'informatique
Prof de maths.
Donc, voilà, parce que c'est souvent la problématique aujourd'hui, c'est le problème de formation des formateurs ou des formatrices. Mm-hmm. Et je crois qu'aujourd'hui, maintenant, il y a un CAPES informatique et sciences du numérique. J'ai, Raphaël veut réagir aussi.
Ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai entendu Ludine me raconter ces histoires-là. Et effectivement, moi, c'est quelque chose que je fais aussi en tant que formateur, parce que je forme des développeurs, mais, et aussi dans les coding goûtés, l'idée qu'une erreur, c'est quelque chose qui mérite d'être célébré, parce que si on a fait une erreur, c'est que on a quelque chose à apprendre, en fait. Donc on peut ouvrir ses écoutilles et apprendre quelque chose de nouveau, et c'est formidable. Et donc, Ludine, qui avait l'habitude de cette approche-là dans les coding goûtés, là, qui se retrouve à dire, ah tiens, à essayer, en fait, hein, c'est ça, Ludine me racontait, à essayer des trucs, et puis ça marche pas, essayer jusqu'à ce que ça marche, ce qui est comme ça, enfin, ce qui est formidable à apprendre, d'entendre que le comportement de son professeur, ça m'a un petit peu désolé. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est très spécifique à la programmation, c'est que et que les enseignants aujourd'hui savent pas vraiment exploiter, c'est que si ça marche pas, on n'a pas besoin d'un professeur pour nous le dire. En fait, c'est l'ordinateur qui va ne pas marcher. Et du coup, c'est à l'inverse très gratifiant d'avoir finalement quelque chose qu'on essaye de faire et de réussir à le faire fonctionner. Et du coup, le mode d'apprentissage devient très différent. Enfin, notamment, on va encourager à faire un maximum d'essais et erreurs. Et les rares fois où je me suis retrouvé avec des enseignants en primaire pour leur montrer comment moi je m'y prenais, je leur disais, vous n'avez pas besoin d'apprendre à programmer, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est vous assurer qu'ils essayent jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Et pour le coup, ça marche bien. Et il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas du tout à l'aise avec cette approche-là. Et je pense que c'est effectivement un manque de formation par rapport à cette activité spécifiquement qu'est l'informatique.
Othini, tu voulais réagir ?
Oui, je voulais aussi rajouter, compléter par rapport aussi à ce que voilà, les enfants aujourd'hui découvrent à l'école. Alors, je ne dis pas que c'est une généralité, mais on a beaucoup d'enfants qui arrivent et qui nous disent « Oui, j'ai déjà fait un peu de programmation à l'école » et qu'on leur demande « Qu'est-ce que vous avez fait ?» C'est généralement « J'ai fait des ronds, des carrés et des triangles ». Mais est-ce qu'on t'a expliqué des notions, on leur demandait si on leur avait expliqué des notions un peu plus approfondies, et on se rendait bien compte que non. Alors est-ce que aujourd'hui la programmation à l'école est, j'ai envie de dire, captée par les profs de maths, je ne sais pas, mais peut-être que voilà, le retour des enfants, c'est que ça manquait de fun à l'école. S'ils ne s'amusaient pas, ils n'avaient pas l'air de... Voilà, ils nous disaient, non, on ne s'amuse pas. Enfin, on s'amuse beaucoup plus avec nous, Tech Kids, mais voilà, c'était le contexte. Mais à l'école, c'était bof.
D'accord. Alors, Raphaël, rapidement, parce qu'il nous reste... J'ai quand même une question importante qu'on n'a pas encore abordée. Vas-y,
ouais,
Raphaël.
Rapidement, je ne veux pas non plus qu'on charge trop la barque sur les enseignants. On leur demande beaucoup de choses. Et oui. Moi, à ce stade-là, ça ne me paraît pas du tout évident que leur demander d'enlever du temps de certains enseignements qui sont essentiels pour de la programmation, ça soit... Enfin, je ne sais pas dire si c'est justifié ou pas aujourd'hui. Je manque de recul et j'imagine que beaucoup de gens manquent de recul sur cette question-là.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on consacrera une émission sur le sujet avec notamment des enseignants et des enseignantes. Alors, le temps passe vite quand on parle d'un sujet passionnant. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Parce que, Libre à vous, ça parle beaucoup de logiciels libres. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que... vous avez cité des logiciels qui sont... pour la plupart libres, Scratch, Python, qui est un langage de programmation. Donc, quelle est la place du logiciel libre dans vos initiatives, à la fois en termes d'outils, mais est-ce que vous avez aussi une sensibilisation sur ce qu'est le logiciel libre ou ce qu'est le droit d'auteur sur les productions qui sont faites ? Alors, rapidement, parce que le temps file. Tony ?
Alors, rapidement, on essaye, dans la plupart des cas, d'utiliser des logiciels libres. On utilise, je dirais, aujourd'hui, dans les outils d'apprentissage, je dirais qu'on est à 70%, on utilise des outils libres ou des logiciels libres. Quand je dis outils, c'est qu'on a par exemple un petit robot qui est un outil qui est open source, qu'on utilise aussi dans nos activités. C'est pas le cas pour tous, parce que malheureusement, voilà, il y a des outils pour les plus petits qui sont encore un petit peu délicats, etc. La sensibilisation au libre se fait. Alors, à nouveau, c'est plutôt pour les plus grands. Puisqu'il y a, on voit des réflexes quand ils sont en mode projet, où là, ils cherchent à réaliser leur petit jeu, leur petit projet, peu importe. Je vais essayer d'être bref là-dessus. Le réflexe, c'est d'aller sur Internet et d'aller récupérer des trucs à droite, à gauche. Et là, on leur dit, attention, est-ce que tu t'es assuré est-ce que l'auteur de cette création te permet de l'utiliser ou pas. Il y a une sensibilisation qui est faite à ce niveau-là, malgré tout. Alors après, ça reste compliqué, parce que ça pourrait ouvrir un débat très très long, très très vaste avec les enfants, mais on essaye malgré tout de les orienter vers des sites où les contenus sont libres, de manière à pouvoir réaliser leur projet.
Raphaël Pierquin ?
Alors, sur ces questions-là, c'est au moment où, ce matin, on discutait avec Ludine, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faut que je t'explique ce que c'est que le logiciel libre. C'est pour dire à quel point ce n'est pas un sujet qu'on aborde de manière explicite. Donc, pour les outils qui sont utilisés pendant les goûters, ça dépend de ce que les familles ont envie d'essayer. Et parfois, il y a des parents qui sont sensibles à ça et qui vont aller vers ça. Puis, des fois, il y a des parents qui ont acheté un logiciel qui est très propriétaire et qui ont très envie de l'utiliser. Donc, on n'a pas de... c'est ce qui compte, c'est l'énergie et la passion qu'ont les participants et les participantes. Après, pour ce qui est du logiciel libre, moi j'ai un goût pour ça. Mais mon approche jusqu'à maintenant, c'était de me dire déjà, au moment où j'ai discuté avec Ludine, j'ai pu expliquer ce que c'était que le logiciel libre en moins de 4 minutes, je pense. Parce qu'à partir du moment où on peut parler de ce que c'est qu'un programme et de ce que c'est qu'un code source, alors après il faut expliquer que où les codes sources ne sont pas disponibles. Donc ça, c'est un concept qui est nouveau, en fait, quand on sort d'un coding goûté, c'est amusant. Et du coup, après, expliquer ce que c'est que l'open source, et après, le logiciel libre, ça a pris... Enfin, c'était trivial, en fait, à expliquer. Et l'expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la programmation, qui n'a jamais vu des instructions, une suite d'instructions, je pense que ça doit être beaucoup plus complexe.
Ludine, tu veux réagir là-dessus ?
Alors, je pense... Oui, effectivement, donc, j'ai appris ce que c'est qu'un logiciel libre ce matin, donc il n'y a pas eu de sensibilisation particulière, ni pendant les coding goûté, ni à l'école, du coup. C'est tout ce que
d'accord.
Je vais dire sur le sujet.
En tout cas, c'est dans les actions de sensibilisation de l'April, faire cette émission a permis que Ludine apprenne ce qu'est un logiciel libre. Donc, il nous reste vraiment peu de temps. Il y a d'autres, évidemment, là, on a parlé des coding goûtés des Kids Academy. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres initiatives qui existent. Hein. Coding goûté, ce n'est pas qu'à Paris. Il y a des académies aussi professionnelles qui existent partout en France. Il y a des initiatives ailleurs, par exemple à Digne, l'école du développement du logiciel libre qui s'adresse aussi aux collégiens, aux lycéens. On mettra les références sur le site de l'April. On va finir par un petit tour de table, peut-être s'il y a un mot ou quelque chose qu'on n'a pas abordé, que vous souhaiteriez dire, ou si vous avez des projets à annoncer, n'hésitez pas. On va commencer par Tony Bassett.
Le sujet est vaste. Je pense qu'effectivement, on est sur un format court, donc c'est vraiment difficile de tout résumer, tout synthétiser. Aujourd'hui, je pense que
on a fait le tour.
On n'a pas fait le tour, mais voilà, il y aurait trop de choses à dire et trop peu de temps pour y parvenir.
En tout cas, on encourage les familles à participer à des ateliers comme Tech Kids Academy ou d'autres.
Ou d'autres, voilà, tout à fait. Des initiatives comme la nôtre, il en existe plusieurs en Île-de-France, partout dans le reste de la France aussi, dans le reste du monde aussi. Allez-y. Amusez-vous, que vos enfants s'amusent et découvrent et se rendent compte que finalement, programmer, c'est pas aussi barbaresque qu'on le présente dans les films le plus souvent.
Raphaël Pierquin.
Deux messages. Alors le premier, c'est si vous êtes parent et que vous avez envie d'essayer, allez voir sur Scratch et avec votre enfant, vous prenez un peu de temps seul, c'est amusant, c'est facile. Il y a plein de choses à apprendre, on peut y passer du temps, mais c'est un outil qui est formidable pour apprendre. Ça, c'est le premier. Et après, si vous avez envie d'apprendre ça de manière un peu plus sociale, dans un coding goûté, moi, ce que j'encourage à faire, c'est de créer son coding goûté. Donc, on a mis des ressources sur le site codinggoûté.org pour que toutes celles et ceux qui souhaitent en organiser puissent le faire. Chacun peut s'approprier le concept à sa manière. Peut-être que vous saurez que dans votre région, il y a déjà des coding goûtés. Surtout, vous ne dites pas, il y en a déjà un, donc moi, je ne peux pas le faire. Si, tout le monde est légitime à faire des coding goûtés. On y tient. Et si vous êtes tenté de vous préparer en préparant quelque chose, un parcours pédagogique et encadrant les choses, relâchez-vous, faites un gâteau et suivez le processus que j'ai décrit avec les patouilles et les spectacles plusieurs fois pendant la séance et vous ne mettez pas la pression, ça marche très bien. Et faites-en.
Merci Raphaël. Le mot de la fin pour Ludine Pierquin.
Oui, alors merci à tous, enfin beaucoup. Et pour les filles et les femmes, lancez-vous, n'ayez pas peur. Vous êtes autant capables que les hommes et vous êtes légitimes.
C'est une belle conclusion. Donc je remercie donc les personnes invitées aujourd'hui dans l'émission. Donc Tony Bassett de Tech Kids Academy, Raphaël Pierquin des Coding Goûté, Ludine Pierquin des Coding Goûté. Je remercie également William Asgavari qui est en régie aujourd'hui pour l'enregistrement de cette émission. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter I'm Here par Big Albert et on se retrouve juste après.
Cause commune.
Nous venons d'écouter I'm Here par Big Albert, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons aborder le sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Jouons collectif de Vincent Calame, bénévole à l'April. Et le thème du jour, Vincent, est la patrouille du libre.
Oui, alors la patrouille du libre, c'est, cette idée de chronique m'est venue lors d'une discussion post-émission d'un précédent Libre à vous qui portait sur LibreOffice et où j'avais évoqué également ma quête du libre dans ma structure. Et je discutais migration avec Philippe Hemel, qui était un des intervenants de cette émission. Et il m'évoquait le cas d'une migration où après la migration proprement dite, c'est-à-dire l'installation, la formation des postes, ils étaient restés sur place et passaient régulièrement dans les bureaux pour s'assurer que tout allait bien. Et je trouve que cette approche moi, rejoignait un peu ma propre expérience. Et c'est cette approche que j'intitule « Patrouille du libre », que je trouve est un moyen efficace de résoudre les problèmes et de diminuer les tensions.
C'est-à-dire que tu veux dire que les personnes n'osent pas dire qu'elles ont un problème ?
Alors, bien sûr, quand ça ne marche pas, elles le disent. On l'entend très vite. Moi, je pense plutôt à toutes ces petites choses qu'on a envie de réaliser, mais auxquelles on n'arrive pas parce qu'on ne sait pas par quel bout les prendre. Par exemple, une mise en page particulière sous LibreOffice. On a vu un autre document et on voudrait la reproduire et on n'y arrive pas. Ce n'est souvent pas des choses indispensables. Et si la personne ne peut pas le faire, elle va abandonner l'idée. Mais à chaque fois, il reste un petit goût... un arrière-goût d'inachevé.
Alors donc l'idée que tu présentes dans cette patrouille du libre, c'est d'aller devant la personne pour finalement favoriser l'expression de ses besoins.
Oui, c'est ça. On fait le tour des couloirs et comme ça, on reste dans un cadre informel qui libère la parole. On parle du temps, on papote et puis là, la personne place un petit « à propos, je voudrais faire ça et je n'y arrive pas ». On prend 5 minutes, souvent ça suffit pas toujours, mais ce que je constate, c'est que c'est des choses pour lesquelles les personnes sont gênées de vous déranger, justement quand elles sont résolues en quelques secondes, et elles sont encore moins disposées à suivre une procédure un peu formelle qui serait d'ouvrir un ticket. C'est quand il y a des bugs, on va sur un site et puis on dépose une demande, elles ne vont pas le faire. Derrière ça, je pense qu'il y a aussi un peu la honte de ne pas y rêver tout seul. Et donc, en prenant les devants, on désamorce beaucoup de tensions et on montre qu'on est disponible et aussi qu'on ne juge pas les gens, on peste pas parce qu'ils nous dérangent et on les note pas.
Et quelque part, cela assure un service après-vente du logiciel libre.
Oui, voilà. L'idée, hein, c'est ne jamais laisser les gens démunis, les accompagner dans les premiers pas et leur faire gagner en autonomie. Alors que l'informatique, ça prend en se pratiquant. Hein, ça a été abordé dans le sujet principal de cette émission. Et puis, il est aussi plus facile de transmettre par petites touches quand le besoin se présente, plutôt que d'assurer une formation initiale qui ne peut pas couvrir tous les cas de figure.
Alors, est-ce que ta suggestion est de généraliser ces patrouilles du libre ?
Alors là, évidemment, j'évoque mon propre cas où je suis dans une structure
à demeure.
Voilà, je suis un informaticien à demeure, donc c'est évidemment pas toujours possible. Alors, dans le cadre d'organisations plus petites, on pourrait imaginer des patrouilles plus espacées dans le temps. Alors, évidemment, là, je parle des organisations. Pour le grand public, c'est évidemment beaucoup plus compliqué à mettre en place. Hein, je n'ai pas d'exemple. Mais je pense qu'il y a une approche complémentaire à la patrouille, c'est celui de la permanence. C'est d'indiquer un lieu, une heure régulière où la personne pourra trouver un interlocuteur pour le renseigner sur ses petits problèmes du quotidien, là aussi dans un cadre plutôt informel. Et ça, je sais que c'est un mécanisme qui a été mis en place par plusieurs groupes d'utilisateurs locaux de logiciels libres, hein, pour ce que je connais qui est Paris Nux. Il y a les premiers samedis du libre à la Cité des Sciences. Donc voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour vous inviter à vous rendre sur l'agenda du libre où vous pourrez voir si un groupe local d'utilisateurs de logiciels libres organise des permanences près de chez vous.
D'accord, donc Paris Nux, c'est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres de la région parisienne, enfin Paris, la région parisienne. Il organise régulièrement des événements. Donc les premiers samedis, c'est chaque premier samedi du mois à la Cité des Sciences et de l'Industrie de 14h à 18h. Paris Nux, avec d'autres groupes, organise une journée consacrée aux logiciels libres avec des conférences et des ateliers d'accueil.
Évidemment, pour les personnes qui nous écoutent ailleurs qu'en région parisienne, sur l'agenda du libre, donc agendadulibre.org, tout attaché, vous retrouverez des permanences, ou en tout cas des événements récurrents qui sont organisés dans les autres régions. Et puis aussi les permanences, on va dire, un peu plus festives. Hein. C'est l'occasion, par exemple, de parler des apéros, c'est-à-dire de rencontrer des gens autour des apéros et de parler de leurs problèmes, donc de cette, notamment de cette patrouille du libre ou de ces permanences. Est-ce que tu souhaites ajouter un mot de conclusion sur ces patrouilles du libre ou sur ces permanences?
Non. Enfin, je te dis, toujours mélangé, informel et puis pratique. Toujours, effectivement, ne pas avoir un cadre trop rigoureux.
Un cadre trop formel et qui peut bloquer les utilisateurs et les utilisatrices.
Et les culpabiliser.
D'accord. Écoute, merci Vincent pour cette chronique Jouons collectif. On se retrouve le mois prochain. Je te souhaite de passer une belle journée.
Merci.
Alors, nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, d'abord, les réponses aux questions du quiz. Là, donc, la première question, c'était, lors de l'émission du 3 septembre 2019, nous avions parlé de la migration de la gendarmerie nationale vers les logiciels libres. La question, c'est combien de postes informatiques sont sous système libre GNU Linux? Bon, à quelques milliers près. Ben, la réponse, c'est environ 73 000 postes sur les 80 000 que compte la gendarmerie. La deuxième question, quelle est la suite bureautique libre utilisée au début de la migration et quelle est la suite bureautique libre utilisée aujourd'hui par la gendarmerie nationale? La première, c'était OpenOffice au démarrage et aujourd'hui, c'est une suite bureautique dont vient de parler Vincent Calame, c'est LibreOffice. Et j'en profite pour rappeler que nous avons consacré une émission dans Libre à vous sur Cause Commune sur justement cette suite bureautique libre. Donc vous retrouverez les podcasts sur causecommune.fm et sur april.org. Alors dans les événements à venir, la fête des possibles. Du 14 au 29 septembre 2019, diverses organisations et réseaux de la transition participent, même organisent la fête des possibles. Donc des centaines de rendez-vous sont prévus pour rendre visibles les milliers d'initiatives locales qui embellissent la société et construisent un avenir plus durable et solidaire. C'est possible, et le mot d'ordre de la fête, c'est possible de manger bio et à moindre coût, c'est possible de se déplacer au quotidien sans polluer, c'est possible d'utiliser des logiciels libres, etc. Donc le site c'est fête-des-possibles.org et sur le site de l'agenda du libre, vous trouvez les différents événements libristes qui sont organisés dans le cadre de cette fête des possibles, donc du 14 au 29 septembre 2019. Ah, j'entends le générique qui démarre, donc en fait c'est pas le générique court, c'est le générique long qui démarre. Mais c'est pas grave, on va finir en musique, en plus c'est un très beau générique. Je vous annonce les rencontres régionales du logiciel libre à Nantes le 19 septembre. Donc qui s'intéresse notamment aux services publics et aux services métiers, mais j'en reparlerai la semaine prochaine. Deux annonces importantes. Dans l'émission du 14 mai 2019, donc le podcast est disponible sur causecommune.fm et sur april.org, nous avions interviewé Philippe Borel, réalisateur du documentaire « Internet ou la révolution du partage » qui avait été diffusé sur Arte. C'est une version courte de son film « La bataille du libre ». Donc Philippe Borel me signale la campagne de financement participatif qui a été lancée cet été pour financer la version internationale de son film qui sera intitulée Hacking for the Commons, donc en anglais. La campagne de financement se termine dans une dizaine de jours, donc vous avez les références sur le site de l'April, ou sinon vous allez sur helloasso.com et vous cherchez La bataille du libre. Toujours dans les documentaires, j'en profite pour signaler le documentaire LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse, donc, qui cherche toujours une chaîne de télévision pour sa diffusion. Nous avions interviewé le réalisateur François Zaidi dans l'émission du 11 juin 2019. Pareil, les podcasts sont disponibles sur le site de Cause Commune et sur le site de l'April, donc causecommune.fm et april.org. Donc n'hésitez pas si vous avez des contacts auprès de radio, qu'elle soit française ou plus globalement francophone, parce que c'est un documentaire en français qui était très intéressant et qui est totalement complémentaire du documentaire précédent dont je parlais, qui est La bataille du Liban. Vincent parlait de la structure dans laquelle il patrouille pour le libre, on peut dire quelque part comme ça. C'est la FPH, et il y a la soirée de contribution au libre, donc comme chaque jeudi, donc 12 septembre 2019, à partir de 19h30, donc à la FPH dans le 11e arrondissement. Tous les autres événements, vous les retrouvez sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Donc, Étienne Gonu à la régie, Vincent Calame, Noémie Berger, Tommy Bassette, Raphaël Pierquin et Ludine Pierquin. Et également William Asgavari
qui avait participé à la régie pour enregistrement de l'émission sur l'apprentissage de la programmation. Vous retrouverez sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse libreavou@april.org, libreavou tout attaché. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître l'émission et la radio. La prochaine émission aura lieu mardi 17 septembre 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'obsolescence programmée et aussi sur le projet de loi économie circulaire qui va être étudié au Sénat très bientôt. Nous vous souhaitons de passer une excellente fin de journée. On se retrouve donc mardi 17 septembre à 15h30. Et d'ici là, portez-vous bien.